Au cours du dernier épisode, Monsieur Truchon, nous avons abordé la question des 5 termes que Luc emploie pour signifier la pauvreté dans les Béatitudes. Nous en étions rendus, je crois, au 5e, qui est le terme Anawim. Je pense que vous aimeriez revenir là-dessus.
Oui, d'abord, j'aimerais rappeler le sens fondamental des Béatitudes selon Luc, qui est un sens eschatologique, c'est-à-dire qu'elle s'emploie au futur, elle s'adresse à des groupes de gens, à des groupes sociaux, à des systèmes économiques, des systèmes politiques, qui doivent promouvoir la promotion de la personne, de chaque personne, mais dans une organisation sociale, donc dans un système. Donc, pour guérir un système et travailler à retrouver une justice dans le monde, c'est-à-dire un saint partage des biens et de tout ce que l'homme a de besoin pour se réaliser. Alors, nous avions d'abord à travailler avec confiance en Dieu, parce que Dieu est juste, il va nous aider à réduire et à détruire la misère économique dans le monde. Il y a moyen qu'on y arrive. On a les moyens, on a les dons de Dieu pour le réaliser. Une deuxième, c'est ceux qui travaillent au bien de la santé, c'est de travailler à la guérison des corps, à faire tout pour trouver des vaccins, travailler à la guérison des maladies du corps, parce que c'est un mal encore plus profond que le premier. Le troisième, c'était de travailler à l'éducation, c'est-à-dire à la psychologie, à l'éducation, les sciences de l'éducation, à l'instruction, et aussi à la critique... la critique exacte de ce qui est inhumain pour essayer de le corriger dans nos perversions, soit dans nos conduites, nos mentalités, au niveau de nos actions. Et finalement, de détruire la plus grande misère qu'il y a dans le monde, qui est le désespoir, c'est-à-dire le sentiment qu'on est perdu, qu'on ne s'en sortira jamais et que c'est impossible de combattre, puis ça ne donne rien de combattre. Donc, travailler à détruire ces 4 misères, en ayant confiance en Dieu qu'on va y arriver, c'est la foi de ceux qui ont les béatitudes, qui vivent les béatitudes selon Luc. Le processus par lequel ces gens arrivent à vivre ça, on le verra surtout dans Matthieu. Mais déjà quand même, on peut dire que les Anawim, c'est des clients de Dieu, c'est-à-dire des gens qui n'ont confiance qu'en Dieu seul pour qu'on arrive à construire un homme véritable. Mais que cette confiance en Dieu les incite à travailler pour qu'on y arrive. Donc, c'est le bonheur du travail, dans notre travail, en faisant quelque chose qui produit la libération de l'homme. Évidemment, la clé de lecture fondamentale de ça, ce sera toujours l'amour. Parce que si on lave un plancher, il se ressalit tout le temps, on peut dire « je travaille pour rien ». Non. La personne qui le lave, si elle le fait pour les personnes qu'elle aime, son travail n'est pas rien qu'extérieur, il est intérieur aussi. C'est pour ça qu'on verra aussi les béatitudes selon Matthieu, qui sont encore, dans un sens, pas plus importantes, mais plus fondamentales.
Parce que
le bonheur sera fondamentalement intérieur. Quand Jésus parlera du royaume, il dira le royaume, il est en vous. Parce qu'on verra, quand on verra les béatitudes de Matthieu, que le royaume, finalement, c'est l'amour infini.
Donc on le possède déjà.
On pourra l'avoir parce que le verbe sera au présent, tandis qu'ici, les verbes sont au futur. Donc, si quelqu'un met son bonheur à détruire le mal dans le monde, il va mourir malheureux. Pourquoi? Parce que quand il va mourir, il aura encore des problèmes. Donc, il ne faut pas mettre notre bonheur dans un aspect uniquement social. Il faut travailler socialement, mais probablement quand on va mourir, moi quand je vais mourir, bon, probablement il va y avoir encore des problèmes dans le monde. Donc, le bonheur, fondamentalement, ne peut pas se situer uniquement dans mon travail. Il va se situer plutôt dans ce qu'on appelle mon âme, mon cœur, mon esprit, dans ma relation aux gens, de personne à personne. Quand je vais au garage, c'est bien sûr parce que mon char ou ma voiture ou mon véhicule est brisé. Je ne vais pas là pour parler avec mon ami. D'ailleurs, sa femme serait inquiète si je faisais ça, peut-être. J'y vais à cause de mon char, de mon véhicule qui est brisé. Mais c'est important que mon char fonctionne, mon véhicule fonctionne. Mais ce qui est encore bien plus important, c'est que j'aie une bonne relation avec mon vendeur. Et si j'arrivais à le rencontrer en tant qu'humain, en tant que personne, ça serait encore supérieur. Autrement dit, le travail, c'est une expression de vie, mais le sens fondamental de la vie, c'est la relation de personne à personne, intérieure.
Si vous voulez bien, pour mieux comprendre tout ça, parce qu'on va continuer dans quelques minutes, j'aimerais faire la lecture du texte de Luc.
Oui, je pense que c'est le temps. Soyons attentifs à cette lecture et comprenons bien qu'il va y avoir là-dedans quatre béatitudes et de ce que j'appelle aussi quatre malétitudes. C'est-à-dire des béatitudes vécues à l'envers, des malheurs. Et ça sera bon qu'on s'en reparle un peu après la lecture du texte pour encore resituer bien tout ça.
D'accord. Alors, il s'agit du chapitre 6, versets 20 à 26. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous, les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. Alors, c'est tout un programme.
Ce serait peut-être bon maintenant que ce soit moi qui vous questionne.
Non, je pense que vous voulez nous parler des malétitudes. C'est un mot que j'ignore encore, mais je sens que vous allez nous l'expliquer.
C'est ça. C'est qu'au fond, quand il dit malheur aux riches, c'est qu'au fond, c'est pas la richesse qui est mauvaise. C'est pas les biens, c'est pas le Cadillac blanc qui est mauvais. C'est pas ça du tout. Dieu, il veut qu'on ait tout ce qu'il nous faut et que ça roule bien. Et lui-même, il n'a pas fait quand même une création qui va si mal. Les animaux accouchent sans vétérinaire. Ça fonctionne quand même, la patente, la création. Et les astres, ils arrivent à l'heure. Nous autres, on essaye d'avoir les meilleurs mondes possibles pour les suivre. Autrement dit, l'œuvre de Dieu n'est pas si mal foutue. C'est pas ça. Mais il voudrait que nous autres, on se conduise bien et qu'on, non seulement, même la création n'est pas parfaite, qu'on la rende plus parfaite, qu'on l'utilise bien, et il a fait la terre pour tout le monde. Avant le principe de la propriété privée, il y a le principe que chacun doit manger. Alors, c'est pour ça que quand dans une épicerie, quelqu'un vole parce qu'il crève de faim, on ne peut même pas le traduire en cours. Alors, autrement dit, il y a moyen de vivre comme du monde. Mais pour ça, il faut y voir, il faut y travailler. Par exemple, les journalistes. Les journalistes, actuellement, ils font connaître les malheurs dans le monde. Mais ils font œuvre évangélique en faisant ça. Faire connaître la source du mal dans le monde, c'est la première œuvre évangélique, parce que pour faire le mal, il faut le faire à noirceur. Alors, parce qu'au fond, il y a deux principes qui mènent le monde, l'orgueil ou la charité. En faisant connaître le mal que ceux qui disent qu'ils sont si bons font, on les empêche de le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, il sera plus difficile de faire le mal. Et les images politiques des dictateurs qui font vivre les gens en circuit fermé va devenir de plus en plus impossible. Alors, autrement dit, faire connaître la source du mal, pour qu'on fasse le mal en plein soleil, on ne le fera pas longtemps. La première chose qu'il faut faire pour faire le mal, il faut fermer la lumière de l'intelligence. Comme le gars, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas pris un coup, qui passe à côté d'un pub ou d'une taverne, je ne sais pas trop, il va se faire accroire qu'il va y retourner, mais c'est juste pour se récompenser parce qu'il était 3 semaines sans boire. Il commence par se faire croire que le mal qu'il fait n'est pas si grave. Et au moment donné, on arrive à croire que le mal qu'on fait n'est pas grave du tout. Mais à ce moment-là, on est grave. Voilà la richesse qui est condamnée dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont assez pervertis pour penser que la vie est un plaisir actuellement. C'est pas vrai, il y en a qui crèvent. Alors, on n'a pas le droit d'ignorer les gens qui crèvent, et on se construit des clôtures pour ne pas les voir, et même on s'habitue, et en passant d'un quartier de riche, d'un quartier pauvre, on ne voit même pas de différence, on trouve ça normal. « Ah, eux autres sont pauvres. Ah, ben lui, il est riche. » Ben moi, j'ai rencontré des personnes en chaise roulante qui, peut-être je m'en suis approché pour les aider, mais qui en fait avaient fait plus de millage, plus de kilométrage que des personnes en Cadillac blanc. mais pas au niveau extérieur, au niveau intérieur. Ils étaient heureux, en chaise roulante. Il n'y avait même pas de clignotant sur la chaise. Alors, c'est pour montrer qu'il y a un succès social qui est bien, mais le succès intérieur est encore plus important. Alors, malheur aux riches qui rient maintenant, c'est-à-dire aux inconscients qui ne s'aperçoivent pas qu'ils s'en vont se buter à un mur, à un échec fatal pour eux autres, puisqu'ils n'ayant pas connu l'amour, ne croyant même plus à l'amour. Si un riche n'est plus capable d'accepter un cadeau sans en faire un ou sans le payer, c'est que pour lui, ça le débattirait que de croire que la gratuité est encore possible. Et en fait, les gens pauvres le savent très bien, c'est rare qu'ils vont cogner aux portes de riches, les riches sont occupés. Alors peut-être qu'un gens qui est dans la misère comme eux autres va les aider. Et c'est là une des raisons du jeûne d'ailleurs, de pouvoir communier à ceux qui endurent des misères. Et jeûner est important, sauter un repas par semaine pour communier aux pauvres, aux itinérants, à ceux qui ont faim. C'est capital. Autrement dit, qu'il bouge donc bien ses sens en mangeant bien celui qui ne veut pas que l'amour le dévore.
Vous affirmez que le message central dans les Béatitudes de Luc, c'est que les pauvres sont ceux que Dieu veut sauver. La béatitude est annoncée aux gens qui souffrent parce qu'ils souffrent, pas en ce sens que la souffrance amène le bonheur ou le mérite. On ne met pas l'accent sur les dispositions intérieures, comme Matthieu, je pense, mais sur la souffrance qui attire la bienveillance de Dieu. Monsieur Truchon, cette affirmation me fait un petit peu problème. Ou bien on considère que nous sommes tous souffrants de quelque façon, alors le message s'adresse à tout le monde. Ou bien on ne se considère pas dans la catégorie des souffrants et on se demande si la bienveillance de Dieu, ben, c'est pour moi. Et puis c'est ça, on se pose la question.
Merveilleuse question. Je crois que quelqu'un qui ne souffre pas du tout, il y a un gros problème. Parce que si on n'a pas de problème personnel, au moins on a la souffrance des autres, si on les aime. Et c'est impossible de ne pas avoir de miséricorde ou de pitié à écouter les nouvelles à 6 heures. On peut écouter les nouvelles à 6 heures, prendre une aspirine, les écouter à 10 heures, puis prendre deux aspirines.
Mais ça aussi, ça me fait problème, parce qu'on ne peut rien faire.
Ah, ça, c'est là qu'on en reparlera. Les Béatitudes de Luc disent qu'on peut faire quelque chose. À place de prendre une aspirine, d'abord, on peut faire une prière. Puis en place d'en prendre deux, on peut en faire deux.
Mm-hmm.
La prière nous permet de fonctionner au-delà de nos limites d'abord. La prière, ça nous permet de fonctionner au-delà de nos limites.
Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça?
C'est que la foi nous permet de prendre une distance face à nos problèmes. La foi est thérapeutique. La foi en santé est thérapeutique. Autrement dit, dessiner, c'est déjà un moyen de se guérir. Se parler, c'est un moyen suprême de se guérir, bien sûr, avec ou sans psychiatre. Mais avoir une confiance absolue que quelqu'un nous aime et qu'on va s'en sortir grâce à lui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est éminemment thérapeutique.
Ce que vous dites, c'est que la foi, c'est un remède à bien des maux.
C'est plus qu'un remède, mais c'est un remède. C'est pour ça que Jésus est sauveur. Il s'appelait médecin. Il est sauveur. Il vient pas pour les bien portants. Il vient pour les gens qui ont des problèmes. Mais dire qu'on n'a aucun problème, c'est ce que disaient les pharisiens.
Monsieur Truchon, j'ai une petite question qui va peut-être vous faire sourire. Si les béatitudes, je pense qu'on l'a déjà mentionné, sont déjà toutes installées quelque part dans le fond de notre âme, de notre esprit, alors est-ce qu'on est tous des saints en puissance?
Sûrement. Elles sont installées comme germes. Et je dirais que 1 Timothée, chapitre 2, verset 4 à 7, nous le montre presque en disant « Quand Dieu fait l'homme, il le fait pour lui, autrement dit, il le fait capable de recevoir sa grâce. Et les béatitudes, chacun les vit, mais malheureusement, on ne sait pas toujours qu'on est en train de les vivre. Mais pour le savoir plus, connaissons-les plus, puis on verra qu'on les vivra. » V'là 10 ans, je faisais une expérience, moi, avec quelques petits groupes. Je disais à 10-20 étudiants, est-ce qu'il y en a un là-dedans qui peut me dire qu'il ne vit certainement pas telle béatitude? Donnez-moi 5 minutes, je vais y prouver qu'il la vivait. Alors, les béatitudes, là, elles sont en nous. Elles sont là. La grâce, elle est là. Seulement qu'elle a besoin d'être libérée, d'être développée, d'être travaillée, d'être crue d'abord.
Moi, j'aimerais revenir sur la question du bonheur. On en a parlé un peu la dernière fois. Et bien sûr, c'est, semble-t-il du moins, l'objectif principal de ce qui est contenu dans les Béatitudes, c'est le bonheur. Vous affirmez que le bonheur doit nécessairement venir de Dieu. Vous voulez dire donc que lui seul est en mesure de le permettre. Est-ce que vous voulez dire aussi que tous les malheureux, ceux qui sont privés de bonheur, sont dans cet état parce que Dieu a choisi de ne pas leur accorder?
Alors, si ce Dieu-là existait, je serais athée. Parce que je n'en aurais pas besoin, je serais mieux que lui.
Alors, est-ce qu'on peut être heureux sans le savoir?
Ben non. Mais la question que j'avais compris que vous posiez, c'est que Dieu donne le bonheur aux uns et pas aux autres. Alors, un Dieu comme ça, j'en ai pas besoin.
Alors, si Dieu donne le bonheur à tout le monde et que tout le monde ne ressent pas le bonheur, c'est qu'il est là et qu'il n'a pas les moyens de le lire.
D'une part, Dieu donne le bonheur à tous, mais sa façon de le donner, c'est pas d'une façon de nous obliger et de nous l'imposer. Chaque enfant devient au monde dans la confiance. Chaque enfant devient au monde ouvert à apprendre et à découvrir et à croire en l'amour. Malheureusement, il vient peut-être à perdre cette confiance. Ça, ça ne dépend pas de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de retrouver la confiance d'un enfant, mais il s'agit de retrouver encore bien plus, c'est le sens de notre vie. Alors, Dieu est amour. La première grâce du Nouveau Testament, c'est de croire qu'on est aimé de Dieu. Toujours, éternellement, infailliblement. Et que jamais nos péchés, nos erreurs, nos ignorances n'empêchent cet amour ou transforment ou changent cet amour. Il est là, éternel. Être aimé de Dieu, c'est le point de départ d'une foi fondamentale. Être certain qu'on est aimé de Dieu, c'est la première grâce du Nouveau Testament. Deuxièmement, c'est de croire qu'on peut l'aimer à notre tour, qu'il va se laisser aimer. On verra ça d'ailleurs à un moment donné dans une émission quand on verra les cinq grandes qualités de Dieu. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Est-ce qu'il y a moyen d'en parler d'une façon précise? On le verra. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Alors, croire en l'amour de Dieu pour nous, c'est d'abord pouvoir s'aimer soi-même. Parce qu'on vient au monde physiquement dans un autre. Moi, je suis tombé de ma mère à un moment donné, 7 septembre 1932, je suis tombé à terre, j'étais dans ma mère. On vient au monde dans un autre, physiquement. Spirituellement aussi. Et ce n'est que dans le regard d'un autre qui nous aime qu'on peut se retrouver.
Dans le regard d'un autre qui nous aime?
Oui.
Est-ce que vous parlez du regard de Dieu ou du regard d'une autre personne?
Actuellement, devant moi, c'est par vous qui passe.
D'accord. Alors, il faut le voir en chacun.
C'est ça. Mais pour le voir en chacun, il faut que notre œil ait été guéri. C'est-à-dire qu'on soit devenu nous-mêmes croyants et vivant l'amour. Parce qu'on croit ce qu'on regarde et ce qu'il y a en dedans de nous. Autrement dit, quelqu'un qui verrait quelqu'un pleurer puis qui n'aurait jamais fait l'expérience de la souffrance, il demanderait à un autre pourquoi lui grimace. Il ne comprendrait rien. La source de la connaissance, elle est un germe de vérité en nous qui engendre une expérience capable de vivre une sympathie ou quelque chose de semblable chez un autre et de lire. La capacité de lire ce que vit un autre vient aussi de la capacité en soi de lire en soi-même. Autrement dit, un autre peut découvrir plus encore ce que je sais, mais il faut que je parte d'abord de ce qui se ressemble en moi, chez lui, de ce que j'ai vécu.
Si je sais que je peux le faire, que je suis capable de le faire, encore faut-il que je le veuille.
On ne peut pas refuser l'amour quand il est authentique.
Vous dites en parlant des béatitudes que leur joug est léger et la victoire certaine.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'elles nous paraissent un petit peu difficiles d'accès? Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre? Ça ne me paraît pas si léger, le joug en question.
Oui, parce que souvent, on en reparlera ça aussi dans une émission à propos de Romains 1.3, note G, puis Romains 3.24, note W, les notes de la table. On en parlera ça un moment donné.
D'accord.
De l'amour gratuit de Dieu. Il faudra maintenant parler de l'amour gratuit de Dieu, parce que c'est le fondement puis le sommet de tout ça. Alors,
et c'est, ce que vous dites, c'est que c'est tout ça qui rend le joug léger.
Voilà.
Je reviens sur la question des béatitudes qui sont fondamentalement des attitudes, des puissances de vie qui sont déjà dans notre cœur. Alors, qu'est-ce qui nous rend si aveugles si elles y sont déjà? Si on n'a pas besoin de les acquérir de l'extérieur, elles sont déjà toutes là.
Vous parlez de Matthieu, là?
Je parle de Matthieu parce que la question des attitudes, on revient sur l'attitude,
sur le
fondement, parfait. Sur la question intérieure.
Oui.
Si tout est là, comment est-ce qu'on pourrait ne pas le voir? Si tout y est
c'est
déjà...
C'est très facile de manquer de Dieu. C'est très facile de vivre des années en dehors de Dieu. Saint Augustin le fait d'une façon merveilleuse. Saint Augustin cherchait la beauté et il cherchait le bonheur à l'extérieur de lui-même. Et il l'a cherché pendant des années. Et il le cherchait ce qu'il y a peut-être de plus beau en ce monde, chez la femme. Il le cherchait partout. Et il était tellement habitué de le chercher que quand il a voulu arrêter, son cheval quand même le continuait aux mêmes places, tellement qu'il était habitué. Alors autrement dit, on peut perdre sa vie, c'est bien plus facile qu'on pense de perdre sa vie, puis de ne pas trouver le bonheur. C'est bien plus facile. Il s'agit de ne pas écouter à l'intérieur de nous, de ne pas se sentir soi-même. en train de vivre. Et quand on parlera de la méditation, un moment donné, je tiens à ce qu'on en parle. Se sentir en train d'exister et d'avoir de la valeur, c'est la méditation fondamentale. Se sentir en train, se toucher puis dire « moi j'existe parce que Dieu est là ». Si Dieu n'était pas là, moi j'existerais pas. Et si chaque battement de mon cœur, c'est un acte d'amour de Dieu, c'est parce que j'ai de la valeur. Le premier article du credo, c'est « je crois en un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et qui est amour ». La preuve, c'est qu'il me crée. Il ne crée pas ce qui est petit, qu'il n'aime pas, il n'est pas fou. Il crée ce qui est parfait puis ce qu'il aime. Alors moi, il me crée. Si je crois à ça, je suis un être merveilleux. Je commence à m'aimer. J'ai plus de problème à être dans le silence. J'ai plus de problème d'écouter quasiment les fleurs grandir ou de voir le soleil. Je ne me fuis plus. Et Saint-Augustin disait, sans vouloir me comparer surtout dans la deuxième partie de sa vie, Saint-Augustin disait, je te cherchais au dehors, mais tu étais en moi, ô beauté. Et là, maintenant, j'arrête de chercher partout, puis de courir partout comme un énervé, puis d'abuser de tout.
Très heureux, Saint-Augustin, sauf qu'il y a certainement des gens qui vont chercher toute une vie durant et qui ne trouveront pas.
Ça dépendra peut-être de nous autres. Il faut faire quelque chose pour aider les gens à s'aimer et à se découvrir. Et surtout, c'est la foi qui le fait le plus.
Mais la grâce, ce n'est pas une garantie.
C'est-à-dire que la grâce est déjà donnée. Nous avons à y croire et à la développer. Nous sommes comme des gens dans une prison, puis la porte est ouverte. Je vous donne un autre exemple. Prenez, ça, c'est un exemple qui me frappe tout le temps, la différence entre un couvent de contemplatives puis Orsainville.
Oui.
Bon. Dans les deux cas, il y a des barreaux. Dans le couvent des contemplatives, c'est pour pas que les gens rentrent.
Oui, mais ce sont des barreaux où les gens les ont choisis.
Ah, on va y arriver. Tandis qu'à Orsainville, ils sont forcés d'entrer là. Mais le jour où à Orsainville, ou à une autre prison, on va s'en dire, quelqu'un décide de se prendre en main puis de se perfectionner, il n'est plus en prison. Il décide de se construire, il n'est plus en prison.
Je pense qu'on a, on connaît l'histoire de certains prisonniers qui se sont déclarés parfaitement libres, libérés dans leur prison, dans leur milieu carcéral.
Oui, actuellement, je connais des personnes qui vont voir des prisonniers qui, en fait, ce sont actuellement quasiment des moines, des contemplatifs. Ils sont sortis complètement de la prison intérieure et maintenant, un jour, ils sortiront de leur maison extérieure. Puis les gens, les agents de la paix leur font de plus en plus confiance parce qu'ils deviennent responsables. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent d'abuser puis de compter sur les autres. Ils se sont pris en main et ils décident de se perfectionner eux-mêmes. Alors, à ce moment-là, l'autorité, l'institution, vient nous aider et on arrête de lutter contre les structures. Au contraire, alors la liberté commence quand on décide de faire ce qu'on est obligé de faire.
Monsieur Truchon, je vous remercie. La semaine prochaine, nous allons poursuivre nos entretiens sur l'introduction générale des Béatitudes, selon Luc, sans doute, et aussi selon Matthieu. Merci, Monsieur Truchon.
Merci.